Madame d'Aulnoy, conte, le prince Marcassin. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient dans une grande tristesse parce qu'ils n'avaient point d'enfants. La reine n'était plus jeune, bien qu'elle fût encore belle, de sorte qu'elle n'osait s'en promettre. Cela l'affligeait beaucoup, elle dormait peu et soupirait sans cesse, priant les dieux et toutes les fées de lui être favorables. Un jour qu'elle se promenait dans un petit bois, après avoir cueilli quelques violettes et des roses, elle cueillit aussi des fraises, mais aussitôt qu'elle en eut mangé, elle fut saisie d'un si profond sommeil qu'elle se coucha au pied d'un arbre et s'endormit. Elle rêva, pendant son sommeil, qu'elle voyait passer en l'air trois fées qui s'arrêtaient au-dessus de sa tête. La première, la regardant en pitié, dit « Voilà une aimable reine à qui nous rendrions un service bien essentiel si nous la voulions douer d'un enfant. » « Volontiers, dit la seconde, douez-la, puisque vous êtes notre aînée. »« Je la doue, continua-t-elle, d'avoir un fils, le plus beau, le plus aimable et le mieux aimé qui soit au monde. »« Et moi, dit l'autre, je la doue de voir ce fils heureux dans ses entreprises, toujours puissant, plein d'esprit et de justice. » Le tour de la troisième étant venu pour douer, elle éclata de rire et marmotta plusieurs choses entre ses dents que la reine n'entendit point. Voilà le songe qu'elle fit. Elle se réveilla au bout de quelques moments, elle n'aperçut rien dans l'air ni dans le jardin. « Hélas, dit-elle, je n'ai point assez de bonne fortune pour espérer que mon rêve se trouve véritable. Quel remerciement ne ferais-je pas aux dieux et aux bonnes fées si j'avais un fils ?» Elle cueillit encore des fleurs et revint au palais plus gaie qu'à l'ordinaire. Le roi s'en aperçut, il la pria de lui en dire la raison, elle s'en défendit, il la pressa davantage. « Ce n'est point, lui dit-elle, une chose qui mérite votre curiosité. Il n'est question que d'un rêve, mais vous me trouveriez bien faible d'y ajouter quelque sorte de foi. » Elle lui raconta qu'elle avait vu en dormant trois fées en l'air, et ce que deux avaient dit, que la troisième avait éclaté de rire, sans qu'elle pût entendre ce qu'elle marmottait. « Ce rêve, dit le roi, me donne comme à vous de la satisfaction. Mais j'ai de l'inquiétude de cette fée de belle humeur, car la plupart sont malicieuses, et ce n'est pas toujours bon signe quand elle rit. » « Pour moi, répliqua la reine, je crois que cela ne signifie ni bien ni mal. Mon esprit est occupé du désir que j'ai d'avoir un fils, et il forme là-dessus sans chimère. Que pourrait-il même lui arriver, en cas qu'il y eût quelque chose de véritable dans ce que j'ai songé? Il est doué de tout ce qui se peut de plus avantageux, plutôt ciel que juste cette consolation. » Elle se prit à pleurer là-dessus, il l'assura qu'elle lui était si chère, qu'elle lui tenait lieu de tout. Au bout de quelques mois, la reine s'aperçut qu'elle était grosse. Tout le royaume fut averti de faire des vœux pour elle. Les autels ne fumaient plus que des sacrifices qu'on offrait aux dieux pour la conservation d'un trésor si précieux. Les états assemblés députèrent pour aller complimenter leur majesté. Tous les princes du sang, les princesses et les ambassadeurs, se trouvèrent aux couches de la reine. La layette pour ce cher enfant était d'une beauté admirable, la nourrice excellente. Mais que la joie publique se changea bien en tristesse, quand au lieu d'un beau prince, l'on vit naître un petit Marcassin. Tout le monde jeta de grands cris qui effrayèrent fort la reine. Elle demanda ce que c'était. On ne voulut pas le lui dire, crainte qu'elle ne mourût de douleur. Au contraire, on l'assura qu'elle était mère d'un beau garçon et qu'elle avait sujet de s'en réjouir. Cependant, le roi s'affligeait avec excès. Il commanda que l'on mît le Marcassin dans un sac et qu'on le jeta au fond de la mer pour perdre entièrement l'idée d'une chose si fâcheuse. Mais ensuite, il en eut pitié. Et pensant qu'il était juste de consulter la reine là-dessus, il ordonna qu'on le nourrît et ne parla de rien à sa femme jusqu'à ce qu'elle fût assez bien pour ne pas craindre de la faire mourir par un grand déplaisir. Elle demandait tous les jours à voir son fils. On lui disait qu'il était trop délicat pour être transporté de sa chambre à la sienne, et là-dessus elle se tranquillisait. Pour le prince Marcassin, il se faisait nourrir en Marcassin qui a grande envie de vivre. Il fallut lui donner 6 nourrices, dont il y avait 3 sèches à la mode d'Angleterre. Celles-ci lui faisaient boire à tout moment du vin d'Espagne et des liqueurs, qui lui apprirent de bonne heure à se connaître au meilleur vin. La reine, impatiente de caresser son marmot, dit au roi qu'elle se portait assez bien pour aller jusqu'à son appartement, et qu'elle ne pouvait plus vivre sans voir son fils. Le roi poussa un profond soupir. Il commanda qu'on apportât l'héritier de la couronne. Il était emmailloté comme un enfant, dans des langes de brocart d'or. La reine le prit entre ses bras, et levant une dentelle frisée qui couvrait sa hure, hélas, que devint-elle à cette fatale vue? Ce moment pensa être le dernier de sa vie. Elle jetait de tristes regards sur le roi, n'osant lui parler. « Ne vous affligez point, ma chère reine, lui dit-il. Je ne vous impute rien de notre malheur. C'est ici sans doute un tour de quelque fée malfaisante. Si vous voulez y consentir, je suivrai le premier dessein que j'ai eu de faire noyer ce petit monstre. » « Ah, sire, lui dit-elle, ne me consultez point pour une action si cruelle. Je suis la mère de cet infortuné Marcassin. Je sens ma tendresse qui sollicite en sa faveur. De grâce, ne lui faisons point de mal, il en a déjà trop, ayant dû naître homme, d'être né sanglier. » Elle toucha si fortement le roi par ses larmes et par ses raisons, qu'il lui promit ce qu'elle souhaitait, de sorte que les dames qui élevaient Marcassinet commencèrent d'en prendre encore plus de soin, car on l'avait regardé jusqu'alors comme une bête proscrite qui servirait bientôt de nourriture aux poissons. Il est vrai que malgré sa laideur, on lui remarquait des yeux tout pleins d'esprit. On l'avait accoutumé à donner son petit pied à ceux qui venaient le saluer, comme les autres donnent leurs mains. On lui mettait des bracelets de diamants, et il faisait toutes ces choses avec assez de grâce. La reine ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Elle l'avait souvent entre ses bras, le trouvant joli dans le fond de son cœur, car elle n'osait le dire, de crainte de passer pour folle. Mais elle avouait à ses amis que son fils lui paraissait aimable. Elle le couvrait de 1000 nœuds de noms pareils, couleur de rose. Ses oreilles étaient percées. Il avait une lisière avec laquelle on le soutenait pour lui apprendre à marcher sur les pieds de derrière. On lui mettait des souliers et des bas de soie attachés sur le genou pour lui faire paraître la jambe plus longue. On le fouettait quand il voulait gronder. Enfin, on lui ôtait, autant qu'il était possible, les manières marcassines. Un soir, que la reine se promenait et qu'elle le portait à son cou, elle vint sous le même arbre où elle s'était endormie et où elle avait rêvé tout ce que j'ai déjà dit. Le souvenir de cette aventure lui revint fortement dans l'esprit. « Voilà donc, disait-elle, ce prince si beau, si parfait et si heureux que je devais avoir. Oh, songe trompeur, vision fatale, oh fée, que vous avais-je fait pour vous moquer de moi ?» Elle marmottait ses paroles entre ses dents, lorsqu'elle fit croître tout d'un coup un chêne, dont il sortit une dame fort parée, qui, la regardant d'un air affable, lui dit « Ne t'afflige point, grande reine, d'avoir donné le jour à Marcassinet. Je t'assure qu'il viendra un temps où tu le trouveras aimable. » La reine la reconnut pour une des trois fées, qui, passant en l'air lorsqu'elle dormait, s'était arrêtée et lui avait souhaité un fils. « J'ai de la peine à vous croire, madame, répliqua-t-elle. Quelque esprit que mon fils puisse avoir, qui pourra l'aimer sous une telle figure ?» La fée lui répliqua encore une fois. « Ne t'afflige point, grande reine, d'avoir donné le jour à Marcassinet. Je t'assure qu'il viendra un temps où tu le trouveras aimable. » Elle se remit aussitôt dans l'arbre, et l'arbre rentra en terre, sans qu'il parût même qu'il y en eût eu un en cet endroit. La reine, fort surprise de cette nouvelle aventure, ne laissa pas de se flatter que les fées prendraient quelque soin de l'altesse bestiole. Elle retourna promptement au palais pour en entretenir le roi, mais il pensa qu'elle avait imaginé ce moyen pour lui rendre son fils moins odieux. « Je vois fort bien, lui dit-elle, à l'air dont vous m'écoutez, que vous ne me croyez pas. Cependant, rien n'est plus vrai que tout ce que je viens de vous raconter. » « Il est fort triste, dit le roi, d'essuyer les railleries des fées. Par où s'y prendront-elles pour rendre notre enfant autre chose qu'un sanglier ? Je n'y songe jamais sans tomber dans l'accablement. » La reine se retira plus affligée qu'elle l'eût encore été. Elle avait espéré que les promesses de la fée adouciraient le chagrin du roi. Cependant, il voulait à peine les écouter. Elle se retira, bien résolue de ne lui plus rien dire de leur fils et de laisser au dieu le soin de consoler son mari. Marcassin commença de parler, comme font tous les enfants. Il bégayait un peu, mais cela n'empêchait pas que la reine n'eût beaucoup de plaisir à l'entendre, car elle craignait qu'il ne parlât de sa vie. Il devenait fort grand et marchait souvent sur les pieds de derrière. Il portait de longues vestes qui lui couvraient les jambes, un bonnet à l'anglaise de velours noir pour cacher sa tête, ses oreilles et une partie de son groin. À la vérité, il lui venait des défenses terribles. Ses soies étaient furieusement hérissées, son regard fier et le commandement absolu. Il mangeait dans une auge d'or, où on lui préparait des truffes, des glands, des morilles, de l'herbe, et l'on n'oubliait rien pour le rendre propre et poli. Il était né avec un esprit supérieur et un courage intrépide. Le roi, connaissant son caractère, commença à l'aimer plus qu'il n'avait fait jusque-là. Il choisit de bons maîtres pour lui apprendre tout ce qu'on pourrait. Il réussissait mal aux danses figurées, mais pour le passe-pied et le menuet, où il fallait aller vite et légèrement, il y faisait des merveilles. À l'égard des instruments, il connut bien que le luth et la théorbe ne lui convenaient pas. Il aimait la guitare et jouait joliment de la flûte. Il montait à cheval avec une disposition et une grâce surprenantes. Il ne se passait guère de jour qu'il n'allât à la chasse et qu'il ne donnât de terribles coups de dents aux bêtes les plus féroces et les plus dangereuses. Ses maîtres lui trouvaient un esprit vif et toute la facilité possible à se perfectionner dans les sciences. Il ressentait bien amèrement le ridicule de sa figure marcassine, de sorte qu'il évitait de paraître aux grandes assemblées. Il passait sa vie dans une heureuse indifférence. Lorsqu'étant chez la reine, il vit entrer une dame de bonne mine, suivie de trois jeunes filles très aimables. Elle se jeta aux pieds de la reine, elle lui dit qu'elle venait la supplier de les recevoir auprès d'elle, que la mort de son mari et de grands malheurs l'avait réduite à une extrême pauvreté, que sa naissance et son infortune étaient assez connues de sa majesté pour espérer qu'elle aurait pitié d'elle. La reine fut attendrie de les voir ainsi à ses genoux. Elle les embrassa et leur dit qu'elle recevait avec plaisir ses trois filles. L'aînée s'appelait Ismène, la seconde Zélonide et la cadette Marthésie, qu'elle en prendrait soin, qu'elle ne se découragea point, qu'elle pouvait rester dans le palais où l'on aurait beaucoup d'égards pour elle et qu'elle compta sur son amitié. La mère, charmée des bontés de la reine, baisa mille fois ses mains et se trouva tout d'un coup dans une tranquillité qu'elle ne connaissait pas depuis longtemps. La beauté d'Ismène fit du bruit à la cour et toucha sensiblement un jeune chevalier nommé Coridon qui ne brillait pas moins de son côté qu'elle brillait du sien. Ils furent frappés presque en même temps d'une secrète sympathie qui les attacha l'un à l'autre. Le chevalier était infiniment aimable, il plut, on l'aima. Et comme c'était un parti très avantageux pour Ismène, la reine s'aperçut avec plaisir des soins qu'il lui rendait et du compte qu'elle lui en tenait. Enfin, on parla de leur mariage. Tout semblait y concourir. Ils étaient nés l'un pour l'autre, et Coridon n'oubliait rien de toutes ces fêtes galantes et de tous ces soins empressés qui engagent fortement un cœur déjà prévenu. Cependant, le prince avait ressenti le pouvoir d'Ismène dès qu'il l'avait vue, sans oser lui déclarer sa passion. « Ah, Marcassin, Marcassin !» s'écriait-il en se regardant dans un miroir. « Serait-il bien possible qu'avec une figure si disgraciée, tu osasses te promettre quelques sentiments favorables de la belle Ismène ? Il faut se guérir, car de tous les malheurs, le plus grand, c'est d'aimer sans être aimé. » Il évitait très soigneusement de la voir, et comme il n'en pensait pas moins à elle, il tomba dans une affreuse mélancolie. Il devint si maigre que les os lui perçaient la peau. Mais il eut grande augmentation d'inquiétude quand il apprit que Coridon recherchait ouvertement Ismène, qu'elle avait pour lui beaucoup d'estime, et qu'avant qu'il fût peu, le roi et la reine feraient la fête de leurs noces. À ces nouvelles, il sentit que son amour augmentait et que son espérance diminuait, car il lui semblait moins difficile de plaire à Ismène indifférente qu'à Ismène prévenue pour Coridon. Il comprit encore que son silence achevait de le perdre, de sorte qu'ayant cherché un moment favorable pour l'entretenir, il le trouva. Un jour qu'elle était assise sous un agréable feuillage, où elle chantait quelques paroles que son amant avait faites pour elle, Marcassin l'aborda tout ému, et s'étant placé auprès d'elle, il lui demanda s'il était vrai, comme on lui avait dit, qu'elle allait épouser Coridon. Elle répliqua que la reine lui avait ordonné de recevoir ses assiduités, et qu'apparemment cela devait avoir quelque suite. « Ismène, lui dit-il en se radoucissant, vous êtes si jeune que je ne croyais pas que l'on pensât à vous marier. Si je l'avais su, je vous aurais proposé le fils unique d'un grand roi qui vous aime et qui serait ravi de vous rendre heureuse. » À ces mots, Ismène pâlit. Elle avait déjà remarqué que Marcassin, qui était naturellement assez farouche, lui parlait avec plaisir, qu'il lui donnait toutes les truffes que son instinct marcassinique lui faisait trouver dans la forêt, et qu'il la régalait des fleurs dont son bonnet était ordinairement orné. Elle eut une grande peur qu'il ne fût le prince dont il parlait, et elle lui répondit « Je suis bien aise, seigneur, d'avoir ignoré les sentiments du fils de ce grand roi. Peut-être que ma famille, plus ambitieuse que je ne le suis, aurait voulu me contraindre à l'épouser, et je vous avoue confidemment que mon cœur est si prévenu pour Coridon qu'il ne changera jamais. » « Quoi ? Répliqua-t-il. Vous refuseriez une tête couronnée qui mettrait sa fortune à vous plaire ?»« Il n'y a rien que je ne refuse, lui dit-elle. J'ai plus de tendresse que d'ambition, et je vous conjure, seigneur, puisque vous avez commerce avec ce prince, de l'engager à me laisser en repos. »« Ah, scélérate ! S'écria l'impatient Marcassin. Vous ne connaissez que trop le prince dont je vous parle. Sa figure vous déplaît. Vous ne voudriez pas avoir le nom de reine Marcassine. Vous avez juré une fidélité éternelle à votre chevalier. Songez cependant, songez à la différence qui est entre nous. Je ne suis pas un Adonis, j'en conviens, mais je suis un sanglier redoutable. La puissance suprême vaut bien quelques petits agréments naturels. Ismène, pensez-y, ne me désespérez pas. » En disant ces mots, ses yeux paraissaient tout de feu, et ses longues défenses faisaient l'une contre l'autre un bruit dont cette pauvre fille tremblait. Marcassin se retira. Ismène, affligée, répandit un torrent de larmes lorsque Coridon se rendit auprès d'elle. Il n'avait connu jusqu'à ce jour que les douceurs d'une tendresse mutuelle. Rien ne s'était opposé à ses progrès, et ils avaient lieu de se promettre qu'elle serait bientôt couronnée. Que devint ce jeune amant quand il vit la douleur de sa belle maîtresse? Il la pressa de lui en apprendre le sujet. Elle le voulut bien, et l'on ne saurait représenter le trouble que lui causa cette nouvelle. « Je ne suis point capable, lui dit-il, d'établir mon bonheur aux dépens du vôtre. L'on vous offre une couronne. Il faut que vous l'acceptiez. »« Que je l'accepte, grand Dieu ! S'écria-t-elle. « Que je vous oublie et que j'épouse un monstre ! Que vous ai-je fait, hélas, pour vous obliger de me donner des conseils si contraires à notre amitié et à notre repos ?» Coridon était saisi à un tel point qu'il ne pouvait lui répondre, mais les larmes qui coulaient de ses yeux marquaient assez l'état de son âme. Ismène, pénétrée de leur commune infortune, lui dit 100 et 100 fois qu'elle ne changerait pas, quand il s'agirait de tous les rois de la terre, et lui, touché de cette générosité, lui dit 100 et 100 fois qu'il fallait le laisser mourir de chagrin et monter sur le trône qu'on lui offrait. Pendant que cette contestation se passait entre eux, Marcassin était chez la reine, à laquelle il dit que l'espérance de guérir de la passion qu'il avait prise pour Ismène l'avait obligé à se taire, mais qu'il avait combattu inutilement, qu'elle était sur le point d'être mariée, qu'il ne se sentait pas la force de soutenir une telle disgrâce, et qu'enfin, il voulait l'épouser ou mourir. La reine fut bien surprise d'entendre que le sanglier était amoureux.
« Songes-tu à ce que tu dis ? Lui répliqua-t-elle. « Qui voudra de toi, mon fils ? Et quels enfants peux-tu espérer ? » ?»« Ismène est si belle, dit-il, qu'elle ne saurait avoir de vilains enfants, et quand il me ressemblerait, je suis résolu à tout, plutôt que de la voir entre les bras d'un autre. « As-tu si peu de délicatesse, continua la reine, que de vouloir une fille dont la naissance est inférieure à la tienne ?»« Et qui sera la souveraine, répliqua-t-il, assez peu délicate pour vouloir un malheureux cochon comme moi ?»« Tu te trompes, mon fils, ajouta la reine. Les princesses moins que les autres ont la liberté de choisir. Nous te ferons peindre plus beau que l'amour même. Quand le mariage sera fait et que nous la tiendrons, il faudra bien qu'elle nous reste. » « Je ne suis pas capable, dit-il, de faire une telle supercherie. Je serais au désespoir de rendre ma femme malheureuse. »« Peux-tu croire, s'écria la reine, que celle que tu veux ne le soit pas avec toi ? Celui qui aime est aimable, et si le rang est différent entre le souverain et le sujet, la différence n'est pas moins entre un sanglier et l'homme du monde le plus charmant. »« Tant pis pour moi, madame, répliqua Marcassin, ennuyé des raisons qu'elle lui alléguait. J'ose dire que vous devriez moins qu'un autre me représenter mon malheur. » « Pourquoi m'avez-vous fait cochon ? N'y a-t-il pas de l'injustice à me reprocher une chose dont je ne suis pas la cause ?»« Je ne te fais point de reproche, ajouta la reine tout attendrie. Je veux seulement te représenter que si tu épouses une femme qui ne t'aime pas, tu seras malheureux et tu feras son supplice. Si tu pouvais comprendre ce qu'on souffre dans ces unions forcées, tu ne voudrais point encourir le risque. Ne vaut-il pas mieux demeurer seule en paix ?»« Il faudrait avoir plus d'indifférence que je n'en ai, madame, lui dit-il. » Je suis touchée pour Ismène. Elle est douce, et je me flatte qu'un bon procédé avec elle, et la couronne qu'elle doit espérer, la fléchiront. Quoi qu'il en soit, s'il est de ma destinée de n'être point aimée, j'aurai le plaisir de posséder une femme que j'aime. » La reine le trouva si fortement attaché à ce dessein qu'elle perdit celui de l'en détourner. Elle lui promit de travailler à ce qu'il souhaitait, et sur le champ, elle envoya quérir la mère d'Ismène. Elle connaissait son humeur. C'était une femme ambitieuse qui aurait sacrifié ses filles à des avantages au-dessous de celui de régner. Dès que la reine lui eut dit qu'elle souhaitait que Marcassin épousât Ismène, elle se jeta à ses pieds et l'assura que ce serait le jour qu'elle voudrait choisir. « Mais, lui dit la reine, son cœur est engagé. Nous lui avons ordonné de regarder Coridon comme un homme qui lui était destiné. » « Eh bien, madame, répondit la vieille mère, nous lui ordonnerons de le regarder à l'avenir comme un homme qu'elle n'épousera pas. » « Le cœur ne consulte pas toujours la raison, ajouta la reine. Quand il s'est une fois déterminé, il est difficile de le soumettre. Si son cœur avait d'autres volontés que les miennes, dit-elle, je lui arracherais sans miséricorde. La reine, la voyant si résolue, crut bien qu'elle pouvait se reposer sur elle du soin de faire obéir sa fille. En effet, elle courut dans la chambre d'Ismène. Cette pauvre fille, ayant su que la reine avait envoyé guérir sa mère, attendait son retour avec inquiétude, et il est aisé d'imaginer combien elle augmenta quand elle lui dit d'un air sec et résolu que la reine l'avait choisie pour en faire sa belle-fille, qu'elle lui défendait de parler jamais à Coridon, et que si elle n'obéissait pas, elle l'étranglerait. Ismène n'osa rien répondre à cette menace, mais elle pleurait amèrement, et le bruit se répandit aussitôt qu'elle allait épouser le marcassin royal, car la reine, qui l'avait fait agréer au roi, lui envoya des pierreries pour s'en parer quand elle viendrait au palais. Coridon, accablé de désespoir, vint la trouver et lui parla, malgré toutes les défenses qu'on avait faites de le laisser entrer. Il parvint jusqu'à son cabinet. Il la trouva couchée sur un lit de repos, le visage tout couvert de ses larmes. Il se jeta à genoux auprès d'elle et lui prit la main. « Hélas, dit-il, charmante Ismène, vous pleurez mes malheurs. » « Ils sont communs entre nous, répondit-elle. Vous savez, cher Coridon, à quoi je suis condamnée. Je ne puis éviter la violence qu'on veut me faire que par ma mort. Oui, je saurai mourir, je vous en assure, plutôt que de n'être pas à vous. » « Non, vivez, lui dit-il, vous serez reine. Peut-être vous accoutumerez-vous avec cet affreux prince. » « Cela n'est pas en mon pouvoir, lui dit-elle. Je n'envisage rien au monde de plus terrible qu'un tel époux. Sa couronne n'adoucit point mes douleurs. » « Les dieux, continua-t-il, vous préservent d'une résolution si funeste, aimable Ismène. Elle ne convient qu'à moi. Je vais vous perdre, vous n'êtes pas capable de résister à ma juste douleur. »« Si vous mourrez, reprit-elle, je ne vous survivrai pas, et je sens quelque consolation à penser qu'au moins la mort nous unira. » Il parlait ainsi lorsque Marcassin les vint surprendre. La reine lui ayant raconté ce qu'elle avait fait en sa faveur, il courut chez Ismène pour lui découvrir sa joie, mais la présence de Coridon la troubla. Au dernier point. Il était d'humeur jalouse et peu patiente. Il lui ordonna d'un air où il entrait beaucoup du sanglier de sortir et de ne jamais paraître à la cour. « Que prétendez-vous donc, cruel prince ? » s'écria Ismène en arrêtant celui qu'elle aimait. « Croyez-vous le bannir de mon cœur comme de ma présence ? Non, il y est trop bien gravé. N'ignorez donc plus votre malheur, vous qui faites le mien. Voilà celui seul qui peut m'être cher. Je n'ai que de l'horreur pour vous. » « Et moi, barbare, dit Marcassin, je n'ai que de l'amour pour toi. Il est inutile que tu me découvres toute ta haine. Tu n'en seras pas moins ma femme, et tu en souffriras davantage. » Coridon, au désespoir d'avoir attiré à sa maîtresse ce nouveau déplaisir, sortit dans le moment que la mère d'Ismène venait la quereller. Elle assura le prince que sa fille allait oublier Coridon pour jamais, et qu'il ne fallait point retarder des noces si agréables. Marcassin, qui n'en avait pas moins d'envie qu'elle, dit qu'il allait régler le jour avec la reine, parce que le roi lui laissait le soin de cette grande fête. Il est vrai qu'il n'avait pas voulu s'en mêler, parce que ce mariage lui paraissait désagréable et ridicule, étant persuadé que la race marcassinique allait se perpétuer dans la maison royale. Il était affligé de la complaisance aveugle que la reine avait pour son fils. Marcassin craignait que le roi ne se repentît du consentement qu'il avait donné à ce qu'il souhaitait. Ainsi l'on se hâta de préparer tout pour cette cérémonie. Il se fit faire des reins graves, des canons, un pourpoint parfumé, car il avait toujours une petite odeur que l'on soutenait avec peine. Son manteau était brodé de pierreries, sa perruque d'un blond d'enfant et son chapeau couvert de plumes. Il ne s'est peut-être jamais vu une figure plus extraordinaire que la sienne, et à moins que d'être destiné au malheur de l'épouser, personne ne pouvait le regarder sans rire. Mais hélas, que la jeune Ismène en avait peu d'envie. On lui promettait inutilement des grandeurs, elle les méprisait et ne ressentait que la fatalité de son étoile. Coridon la vit passer pour aller au temple. On l'eut prise pour une belle victime que l'on va égorger. Marcassin, ravi, la pria de bannir cette profonde tristesse dont elle paraissait accablée, parce qu'il voulait la rendre si heureuse que toutes les reines de la terre lui porteraient envie. « J'avoue, continua-t-il, que je ne suis pas beau. Mais l'on dit que tous les hommes ont quelque ressemblance avec des animaux. Je ressemble plus qu'un autre à un sanglier, c'est ma bête. Il ne faut pas pour cela m'en trouver moins aimable, car j'ai le cœur plein de sentiments et touché d'une forte passion pour vous. » Ismène, sans lui répondre, le regardait d'un air si dédaigneux. Elle levait les épaules et lui laissait deviner tout ce qu'elle ressentait d'horreur pour lui. Sa mère était derrière elle, qui lui faisait mille menaces. Malheureuse, lui disait-elle, tu veux donc nous perdre en te perdant? Ne crains-tu point que l'amour du prince ne se tourne en fureur? Ismène, occupée de son déplaisir, ne faisait pas même attention à ses paroles. Marcassin, qui la menait par la main, ne pouvait s'empêcher de sauter et de danser, lui disant à l'oreille mille douceurs. Enfin, la cérémonie étant achevée, après que l'on eut crié trois fois « Vive le prince Marcassin! Vive la princesse Marcassine !» l'époux ramena son épouse au palais où tout était préparé pour faire un repas magnifique. Le roi et la reine s'étant placés, la mariée s'assit vis-à-vis du sanglier qui la dévorait des yeux tant il la trouvait belle. Mais elle était ensevelie dans une si profonde tristesse qu'elle ne voyait rien de ce qui se passait et elle n'entendait point la musique qui faisait grand bruit. La reine la tira par la robe et lui dit à l'oreille « Ma fille, quittez cette sombre mélancolie si vous voulez nous plaire. Il semble que c'est moins ici le jour de vos noces que celui de votre enterrement. » « Plaise au Dieu, madame, lui dit-elle, que ce soit le dernier de ma vie. Vous m'aviez ordonné d'aimer Coridon. Il avait plutôt reçu mon cœur de votre main que de mon choix. Mais hélas, si vous avez changé pour lui, je n'ai point changé comme vous. » « Ne parlez pas ainsi, répliqua la reine. J'en rougis honte et de dépit. Souvenez-vous de l'honneur que vous fait mon fils et de la reconnaissance que vous lui devez. » Ismène ne répondit rien. Elle laissa doucement tomber sa tête sur son sein et s'ensevelit dans sa première rêverie. Marcassin était très affligé de connaître l'aversion que sa femme avait pour lui. Il y avait bien des moments où il aurait souhaité que son mariage n'eût pas été fait. Il voulait même le rompre sur le champ, mais son cœur s'y opposait. Le bal commença, les sœurs d'Ismène y brillèrent fort, elles s'inquiétaient peu de ses chagrins, et elles concevaient avec plaisir l'éclat que leur donnait cette alliance. La mariée dansa avec Marcassin, et c'était effectivement une chose épouvantable de voir sa figure, et encore plus épouvantable d'être sa femme. Toute la cour était si triste que l'on ne pouvait témoigner de joie. Le bal dura peu. L'on conduisit la princesse dans son appartement. Après qu'on eut déshabillé en cérémonie, la reine se retira. L'amoureux Marcassin se mit promptement au lit. Ismène dit qu'elle voulait écrire une lettre, et elle entra dans son cabinet dont elle ferma la porte, quoique Marcassin lui cria qu'elle écrivit promptement et qu'il n'était guère l'heure de commencer des dépêches. Hélas! En entrant dans ce cabinet, quel spectacle se présenta tout d'un coup aux yeux d'Ismène. C'était l'infortuné Coridon qui avait gagné une de ses femmes pour lui ouvrir la porte du degré dérobé par où il entra. Il tenait un poignard dans sa main. « Non, dit-il, charmante princesse, je ne viens point ici pour vous faire des reproches de m'avoir abandonné. Vous juriez dans le commencement de nos tendres amours que votre cœur ne changerait jamais. Vous avez malgré cela consenti à me quitter, et j'en accuse les dieux plutôt que vous. » Mais ni vous ni les dieux ne pouvez me faire supporter un si grand malheur. En vous perdant, princesse, je dois cesser de vivre. » À peine ces derniers mots étaient proférés qu'il s'enfonça son poignard dans le cœur. Ismène n'avait pas eu le temps de lui répondre. « Tu meurs, cher Coridon !» s'écria-t-elle douloureusement. « Je n'ai plus rien à ménager dans le monde. Les grandeurs me seraient odieuses. La lumière du jour me deviendrait insupportable. » Elle ne dit que ce peu de paroles, puis... Du même poignard qui fumait encore du sang de Coridon, elle se donna un coup dans le sein et tomba sans vie. Marcassin attendait trop impatiemment la belle Ismène pour ne pas s'apercevoir qu'elle tardait longtemps à revenir. Il l'appelait de toute sa force, sans qu'elle lui répondît. Il se fâcha beaucoup et se levant avec sa robe de chambre, il courut à la porte du cabinet qu'il fit enfoncer. Il y entra le premier. Hélas, quelle fut sa surprise de trouver Ismène et Coridon dans un état si déplorable. Il pensa mourir de tristesse et de rage. Ses sentiments confondus entre l'amour et la haine le tourmentaient tour à tour. Il adorait Ismène, mais il connaissait qu'elle ne s'était tuée que pour rompre tout d'un coup l'union qu'il venait de contracter. On courut dire au roi et à la reine ce qui se passait dans l'appartement du prince. Tout le palais retentit de cris. Ismène était aimée et Coridon estimée. Le roi ne se releva point. Il ne pouvait entrer aussi tendrement que la reine dans les aventures de Marcassin. Il lui laissa le soin de le consoler. Elle le fit mettre au lit. Elle mêla ses larmes aux siennes. Et quand il lui laissa le temps de parler et qu'il cessa pour un moment ses plaintes, elle tâcha de lui faire concevoir qu'il était heureux d'être délivré d'une personne qui ne l'aurait jamais aimé et qui avait le cœur rempli d'une forte tendresse, qu'il est presque impossible de bien effacer une grande passion et qu'elle était persuadée qu'il devait se trouver heureux de l'avoir perdue. « N'importe, s'écria-t-il, Je voudrais la posséder, dût-elle m'être infidèle. Je ne peux dire qu'elle ait cherché à me tromper par des caresses feintes. Elle m'a toujours montré son horreur pour moi. Je suis cause de sa mort, et que n'ai-je pas à me reprocher là-dessus ? La reine me vit si affligée qu'elle laissa auprès de lui les personnes qui lui étaient les plus agréables, et elle se retira dans sa chambre. Lorsqu'elle fut couchée, elle rappela dans son esprit tout ce qui lui était arrivé depuis le rêve où elle avait vu les trois fées. « Que leur ai-je fait ? » disait-elle, « pour les obliger à m'envoyer des afflictions si amères. J'espérais un fils aimable et charmant. Elles l'ont doué de marcassinerie. C'est un monstre dans la nature. La malheureuse Ismène a mieux aimé se tuer que de vivre avec lui. Le roi n'a pas eu un moment de joie depuis la naissance de ce prince infortuné. Et pour moi, je suis accablée de tristesse toutes les fois que je le vois. » Comme elle parlait ainsi en elle-même, elle aperçut une grande lueur dans sa chambre et reconnut près de son lit la fée qui était sortie du tronc d'un arbre dans le bois, qui lui dit « Ô reine, pourquoi ne veux-tu pas me croire ? Ne t'ai-je pas assuré que tu recevras beaucoup de satisfaction de ton marcassin ? Doutes-tu de ma sincérité ? Eh, qui n'en douterait ? Dit-elle. Je n'ai encore rien vu qui réponde à la moindre de vos paroles. Que ne me laissiez-vous le reste de ma vie sans héritier, plutôt que de m'en faire avoir un comme celui-là ? « Nous sommes trois sœurs, répliqua la fée. Il y en a deux bonnes, l'autre gâte presque toujours le bien que nous faisons. C'est elle que tu vis rire lorsque tu dormais. Sans nous, tes peines seraient encore plus longues, mais elles auront un terme. »« Hélas, ce sera par la fin de ma vie, ou par celle de mon marcassin, dit la reine. »« Je ne puis t'en instruire, reprit la fée. Il m'est seulement permis de te soulager par quelque espérance. » Aussitôt elle disparut. La chambre demeura parfumée d'une odeur agréable, et la reine se flatta de quelques changements favorables. Marcassin prit le grand deuil. Il passa bien des jours enfermé dans son cabinet, et griffonna plusieurs cahiers qui contenaient de sensibles regrets pour la perte qu'il avait faite. Il voulut même que l'on gravât ses vers sur le tombeau de sa femme. « Destin rigoureux, loi cruelle, Ismène, tu descends dans la nuit éternelle. Tes yeux, dont tous les cœurs devaient être charmés, tes yeux sont pour jamais fermés. Destin rigoureux, loi cruelle, Ismène, tu descends dans la nuit éternelle. » Tout le monde fut surpris qu'il conservât un souvenir si tendre pour une personne qui lui avait témoigné tant d'aversion. Il entra peu à peu dans la société des dames et fut frappé des charmes des Hélonides. C'était la sœur d'Ismène, qui n'était pas moins agréable qu'elle, et qui lui ressemblait beaucoup. Cette ressemblance le flatta. Lorsqu'il l'entretint, il lui trouva de l'esprit et de la vivacité. Il crut que si quelque chose pouvait le consoler de la perte d'Ismène, c'était la jeune Zélonide. Elle lui faisait mille honnêtetés, car il ne lui entrait pas dans l'esprit qu'il voulut l'épouser. Mais cependant, il en prit la résolution. Et un jour que la reine était seule dans son cabinet, il s'y rendit avec un air plus gai qu'à son ordinaire. « Madame, lui dit-il, je viens vous demander une grâce et vous supplier en même temps de ne me point détourner de mon dessein, car rien au monde ne saurait m'ôter l'envie de me remarier. » « Donnez-y les mains, je vous en conjure. Je veux épouser Zélonide. Parlez-en au roi, afin que cette affaire ne tarde pas. »« Ah, mon fils, dit la reine, quel est donc ton dessein ? As-tu déjà oublié le désespoir d'Ismène et sa mort tragique ? Comment te promets-tu que sa sœur t'aimera davantage ? Es-tu plus aimable que tu n'étais ? Moins sanglier, moins affreux ? Rends-toi justice, mon fils. Ne donne point tous les jours des spectacles nouveaux. Quand on est fait comme toi, on doit se cacher. » « J'y consens, madame, répondit Marcassin. C'est pour me cacher que je veux une compagne. Les hiboux trouvent des chouettes, les crapauds des grenouilles, les serpents des couleuvres. Suis-je donc au-dessous de ces vilaines bêtes ? Mais vous cherchez à m'affliger. Il me semble cependant qu'un marcassin a plus de mérite que tout ce que je viens de nommer. » « Hélas, mon cher enfant, dit la reine, les dieux me sont témoins de l'amour que j'ai pour toi et du déplaisir dont je suis accablée en voyant ta figure. Lorsque je t'allègue tant de raisons, ce n'est point que je cherche à t'affliger. Je voudrais, quand tu auras une femme, qu'elle fût capable de t'aimer autant que je t'aime. Mais il y a de la différence entre les sentiments d'une épouse et ceux d'une mère. » « Ma résolution est fixe, dit Marcassin. Je vous supplie, madame, de parler dès aujourd'hui au roi et à la mère de Zélonide, afin que mon mariage se fasse au plus tôt. » La reine lui en donna sa parole. Mais quand elle en entretint le roi, il lui dit qu'elle avait des faiblesses pitoyables pour son fils, qu'il était bien certain de voir arriver encore quelque catastrophe d'un mariage si mal réglé. Bien que la reine en fût aussi persuadée que lui, elle ne se rendit pas pour cela, voulant tenir à son fils la parole qu'elle lui avait donnée. De sorte qu'elle pressa si fort le roi, qu'en étant fatiguée, il lui dit qu'elle fit donc ce qu'elle voulait faire, que s'il lui en arrivait du chagrin, elle n'en accuserait que sa complaisance. La reine étant revenue dans son appartement, il trouva Marcassin qui l'attendait avec la dernière impatience. Elle lui dit qu'il pouvait déclarer ses sentiments à Zélonide, que le roi consentait à ce qu'elle désirait, pourvu qu'elle y consentît elle-même, parce qu'il ne voulait pas que l'autorité dont il était revêtu servît à faire des malheureux. « Je vous assure, madame, lui dit Marcassin avec un air fanfaron, que vous êtes la seule qui pensiez si désavantageusement de moi. Je ne vois personne qui ne me loue et ne me fasse apercevoir que j'ai 1000 bonnes qualités. » « Tels sont les courtisans, dit la reine, et telle est la condition des princes. Les uns louent toujours, les autres sont toujours loués. Comment connaître ses défauts dans un tel labyrinthe? Ah, que les grands seraient heureux s'ils avaient des amis plus attachés à leur personne qu'à leur fortune. « Je ne sais, madame, répartit Marcassin, s'il serait heureux de s'entendre dire des vérités désagréables. De quelque condition qu'on soit, on ne les aime point. Par exemple, à quoi sert que vous me mettiez toujours devant les yeux qu'il n'y a point de différence entre un sanglier et moi? Que je fais peur? Que je dois me cacher? N'ai-je pas de l'obligation à ceux qui adoucissent là-dessus ma peine, qui me font des mensonges favorables et qui me cachent les défauts que vous êtes si soigneuse de me découvrir? Oh, source d'amour-propre, s'écria la mère, de quelque côté qu'on jette les yeux, on en trouve toujours. Oui, mon fils, vous êtes beau, vous êtes joli, je vous conseille encore de donner pension à ceux qui vous en assurent. Madame, dit Marcassin, je n'ignore point mes disgrâces, j'y suis peut-être plus sensible qu'un autre, mais je ne suis point le maître de me faire, ni plus grand, ni plus droit, de quitter ma hure de sanglier pour prendre une tête d'homme ornée de longs cheveux. Je consens qu'on me reprenne sur la mauvaise humeur, l'inégalité, l'avarice, enfin, sur toutes les choses qui peuvent se corriger, mais, à l'égard de ma personne, vous conviendrez, s'il vous plaît, que je suis à plaindre, et non pas à blâmer. » La reine, voyant qu'il se chagrinait, lui dit que puisqu'il était si entêté de se marier, il pouvait voir Zélonide et prendre des mesures avec elle. Il avait trop envie de finir la conversation pour demeurer davantage avec sa mère. Il courut chez Zélonide. Il entra sans façon dans sa chambre, et l'ayant trouvée dans son cabinet, il l'embrassa et lui dit « Ma petite sœur, je viens t'apprendre une nouvelle qui sans doute ne te déplaira pas. Je veux te marier. »« Seigneur, lui dit-elle, quand je serai mariée de votre main, je n'aurai rien à souhaiter. » »« Il s'agit, continua-t-il, d'un des plus grands seigneurs du royaume, mais il n'est pas beau. »« N'importe, dit-elle, ma mère a tant de dureté pour moi que je serai trop heureuse de changer de condition. »« Celui dont je te parle, ajouta le prince, me ressemble beaucoup. » Zélonide le regarda avec attention et parut étonné. « Tu gardes le silence, ma petite sœur, lui dit-il. Est-ce de joie ou de chagrin ?»« Je ne me souviens point, seigneur, répliqua-t-elle, d'avoir vu personne à la cour qui vous ressemble. »« Quoi ? Dit-il. Tu ne peux deviner que je veux te parler de moi ?»« Oui, ma chère enfant, je t'aime et je viens t'offrir de partager mon cœur et la couronne avec toi. »« Oh Dieu, qu'entends-je ? S'écria douloureusement Zélonide. « Ce que tu entends, ingrate, dit Marcassin, tu entends la chose du monde qui devrait te donner le plus de satisfaction. Peux-tu jamais espérer d'être reine? J'ai la bonté de jeter les yeux sur toi, sans jamais mériter mon amour, et n'imite pas les extravagances d'Ismène. » « Non, lui dit-elle, ne craignez pas que j'attende sur mes jours comme elle. Mais, seigneur, il y a tant de personnes plus aimables et plus ambitieuses que moi. Que n'en choisissez-vous une qui comprenne mieux que je ne fais l'honneur que vous me destinez? Je vous avoue que je ne souhaite qu'une vie tranquille et retirée. Laissez-moi la maîtresse de mon sort. » « Tu ne mérites guère les violences que je te fais, s'écria-t-il, pour t'élever sur le trône. Mais une fatalité qui m'est inconnue me force à t'épouser. » Zélonide ne lui répondit que par ses larmes.